Bon, alors il nous reste une petite demi-heure, 35 minutes, une petite demi-heure pour le débat final. Et déjà, les mains se lèvent.
Oui. Je me présente, Claude Verret, de la Drôme. Je travaille dans la presse. On est à peu près tous d'accord ici, ou peut-être même convaincus de l'état de la planète, du constat qui est fait. On est à peu près d'accord sur le constat de l'état de la planète. On est à peu près d'accord sur beaucoup de choses. Enfin, il me semble que les gens sont assez sensibles à tout ce qui a été dit. Par contre, il semble qu'il y a un peu des difficultés sur le processus. On a évoqué pas mal de processus individuels pour la diminution de la pollution, pour la décroissance, mais les processus qui vont être employés pour y arriver au niveau politique. Si on fait des comparaisons avec ce qui s'est passé il y a une centaine d'années, il y a eu des théorisations. On pense bien sûr aux grands auteurs du socialisme qui ont étudié, qui ont proposé des processus de lutte de classe, de dictature du prolétariat, et j'en passe, et des pires. Et est-ce que dans la décroissance, est-ce qu'il n'y aura pas un moment une nécessité d'établir des processus afin que se les accaparent les politiques? Parce que s'il y a des solutions individuelles, il faudra bien qu'à un certain moment, les politiques s'accaparent ce type de concept pour qu'il y ait quelque chose qui soit aussi, à moins qu'on décide que les politiques n'ont plus leur place dans le futur que nous construirons ensemble.
Oui. Mais moi, c'est une question qui est... Oui, pardon. Donc, voilà, je squatte un peu la parole, excusez-moi. C'est une question à laquelle je pensais que j'aurais une réponse aujourd'hui. C'est quel impact ça va avoir sur la croissance économique de faire... En admettant qu'on fasse une décroissance physique, que ça, j'ai bien compris, est-ce que les économistes ont théorisé l'impact sur la décroissance économique et est-ce que le système se pète la gueule ou pas? En fait, c'était ça ma question du colloque. J'espère qu'on va avoir une réponse avant la fin. Parce que on est tous d'accord pour expliquer qu'une décroissance physique est possible... Mais j'ai pas encore vu de résultats sur la décroissance économique. On dit, éventuellement, ça pourrait être possible qu'il n'y ait pas de décroissance économique associée à ça. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a quasiment rien à changer dans le monde. Il suffit de décroisser un petit peu physiquement. Donc ce serait une nouvelle fantastique pour tous les gens qui veulent garder le même système. Mais j'ai pas l'impression que ce soit la réalité. J'ai l'impression qu'il y a des phénomènes derrière qui font que ça va pas être possible. Simplement, j'arrive pas à avoir des éclaircissements là-dessus.
Sylvie?
Oui, alors, bon, quelques éléments de réponse, mais ils vont peu te satisfaire. Au niveau de la théorie économique, ça n'a pas encore fait l'objet de travaux, hein, de recherches. Bon, moi j'y travaille, mais bon, j'ai d'autres travaux en cours également, donc... Mais, enfin bon, je ne sais pas si du côté italien, il y a des choses qui sont faites. Enfin, il faudrait demander à Mauro Bonaiuti qui est ici. Mais bon, donc voilà, on en est vraiment à une phase bon, tout à fait enfin, nouvelle, ou en tout cas au niveau de la thématique de recherche, c'est nouveau, ça c'est clair. Donc au niveau théorique, on n'a pas de réponse. Au niveau des pistes, enfin en termes donc de changement des processus, etc., bon, on peut très bien orienter les choix, et en matière de politique économique, ça on sait faire, hein, par le biais de la fiscalité, par le biais des subventions, etc., pour orienter effectivement les acteurs, que ce soit les producteurs via les processus de production ou les consommateurs, qui seront donc amenés à acquérir certains types de biens plutôt que d'autres. Voilà, mais bon, effectivement, il n'y a pas de... Enfin, moi, à ma connaissance, en fait, s'il y a une personne dans la salle qui a une autre réponse pour éclaircir ou donner des éléments de...
Moi, j'en ai parlé un petit peu. Hein. Bon, il y a différents points de vue, hein, là-dessus. Il y a des gens qui pensent que c'est possible d'avoir une décroissance matérielle en même temps qu'une croissance économique. Bon, simplement, là, j'en ai parlé, c'est que les manières pour réussir à ça, hein, c'est par une dématérialisation, c'est-à-dire un développement des services et bon, bah, on va avoir des systèmes tellement efficaces que voilà mais qui vaudront toujours plus cher mais qui auront une quantité de matière moindre. Bon, et ces solutions là ce que j'ai expliqué là, c'est qu'elles sont déjà en place, ça se développe déjà là. On est déjà dans la société de services. Il y a 70% du PIB en France, c'est des services. Ça se passe déjà aux États-Unis, c'est la société de services, on y est. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on n'a pas de... Ces solutions-là ne marchent pas. On voit. Et pourquoi? C'est parce que cet argent est réinvesti tout simplement dans de nouvelles consommations qui se font et qui sont bien matérielles. Par exemple, la société de services, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a une société de services? C'est qu'on a délocalisé, hein, la production se passe plus sur place, elle se passe ailleurs. On a exporté la pollution. Et c'est pas une solution. Et c'est pour ça que, pour moi, toutes les choses que j'ai vues sur un découplage entre l'économie et le matériel, à chaque fois, il manque l'aspect de les liens qui se passent. En fait, les produits ont un cycle de vie et cette partie du cycle de vie, en fait, est poussée vers l'extérieur, hors des frontières, et ça rentre plus dans. Disons, il est possible de faire un découplage si on compte uniquement les problèmes locaux. C'est-à-dire, on va pouvoir se faire notre petit monde qui a l'air écologique, mais derrière les rideaux, eh ben, ça va être, ça va pas l'être. Et je crois que, personnellement, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Ou bien il faut fonctionner différemment.
Bon, il y a... Ah, alors,
un petit élément de réponse.
Thierry Jacquot, et puis il y a Bruno Clémentin qui demande la parole depuis le début.
Réponse d'ailleurs aux deux questions. La première question qui portait sur le politique, et puis la deuxième sur donc décroissance, est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on le met en place? Je crois que tout est là, de toute façon, maintenant. C'est vrai qu'on est tous d'accord sur le fait que la décroissance est nécessaire, parce que la croissance infinie sur une planète finie n'est pas possible. Bon, ça, on le fait comprendre assez facilement à ceux qui n'ont pas encore réalisé. Et après, bon, c'est le slogan « consommer moins, vivre mieux », etc. Mais il y a tout ce qui a été exposé sur les manières d'arriver à une décroissance. Là, c'est possible, mais ça veut dire un petit choc politique et une volonté politique. Ça ne va pas se passer uniquement... Ça va pas se passer sans le politique. Là, je pense que vraiment, le politique est plus que majeur. Et heureusement, encore, c'est encore le politique qui décide. Et par exemple, si on prend les exemples de l'agriculture, il y a des investissements énormes. Il y a 40 milliards d'euros au niveau de l'Union européenne qui sont investis dans l'agriculture industrielle. Alors qu'elle pourrait tout à fait être investie dans l'agriculture biologique, etc. Et puis avec des structures de décroissance, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est une volonté politique. Pour le nucléaire, c'est la même chose. Tous les investissements qu'on fait, et dans le nucléaire, et dans la fusion, l'ITER, etc., si on les mettait sur les énergies renouvelables, on pourrait tout à fait construire quelque chose très rapidement avec des effets rebonds écologiques, et non pas avec des effets rebonds sur la croissance. Donc maintenant, peut-être que la question, c'est plus de stimuler le politique pour qu'il y ait une impulsion, parce que c'est vrai qu'on n'y arrivera pas simplement avec les actions individuelles, c'est absolument nécessaire. Mais donc maintenant, l'obstacle, il est là, c'est comment est-ce que des politiques peuvent prendre conscience de, comme ça a été le cas dans les 70, mais ça peut tout à fait se représenter maintenant. Il n'y a pas d'obstacle théorique, en tout cas.
Bon, François Dravignan, donc, quel micro ?
François Dravignan, agroéconomiste. J'ai deux remarques à faire, une qui n'est pas très sérieuse et l'autre qui l'est davantage. La première, c'est que quand j'ai entendu François Schneider parler de la limitation de la consommation des explosifs, j'ai pensé tout de suite que ça nous amènerait à supprimer les prix Nobel, et notamment le prix Nobel d'économie, qui n'a jamais récompensé de pensée explosive, mais seulement de pensée de la plus grande banalité. Alors la deuxième remarque, je voudrais dire que les images de la décroissance qu'on donne aujourd'hui dans cette assemblée me paraissent plutôt souriantes, aimables, comme si nous pouvions nous acheminer avec douceur vers cette décroissance soutenable. Bon. Moi, j'ai plutôt dans la tête des idées de situations insoutenables. Je suis allé en Inde cette année, donc j'ai l'impression de sociétés rurales qui sont au bord de la catastrophe, et je ne vois pas du tout comment ça va pouvoir évoluer, étant donné les appétits des gens qui sont au gouvernement dans les États de l'Inde. Je suis allé au Maroc l'année dernière, dans l'Atlas, dans le Haut Atlas. J'ai l'impression d'une société qui est en train de basculer, et puis j'ai aussi dans la tête ce qui se passe en Argentine aujourd'hui, vous le savez tous, donc une société qui a vraiment basculé. Et puis aussi, plus près de moi, dans mon petit environnement rural, dans le département de l'Aude, eh bien, une petite région où la croissance, effectivement, il y a une croissance, c'est celle du RMI, le nombre des RMIistes a doublé depuis 7 ans. Voilà. Et nous sommes dans une décroissance de l'emploi un peu partout dans ces pays-là, une décroissance insoutenable. Alors, plusieurs personnes ce matin, puis cet après-midi, ont parlé de rentrer dans le mur. Alors là, je crois que dans ces situations-là, on est dans le mur.
Et la question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le mur? Comment on se débrouille? Parce que c'est ça le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait dans le mur?
Juste, en fait, je pense que mon constat et ma question prolongent certainement la remarque de ce monsieur. En fait, je me trompe peut-être, mais il ne me semble pas, depuis le début de l'après-midi, avoir entendu le mot capitalisme. Je sais, c'est un gros mot, un vilain mot, mais alors en fait, est-il tellement évident que la décroissance soutenable mène à une rupture avec le capitalisme qu'il ne s'agit même pas de le nommer, que ce n'est même pas nécessaire? Ou alors, ce que vous nous racontez aujourd'hui, s'agit-il d'aménager une espèce de voie vers un capitalisme que l'on pourrait appeler, j'en sais rien, moi, un visage décroissant, par exemple?
Ah, peut-être des éléments de réponse à qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le mur? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le mur? C'est quand on regarde la réalité, quand on raconte pas en théorie, et les gens se suicident. Hein. En Inde, bah, tu le sais très bien, le taux de suicide des paysans en Inde est extrêmement élevé. Donc c'est vrai que la situation est dramatique. Et ce qu'on peut faire, nous, c'est de le dire. Parce qu'on n'est pas tous dans le mur, heureusement. Ici, on n'est pas directement dans le mur. Donc on peut le faire savoir. Cette question de la décroissance et cette question de la critique du développement, c'est pas une question intellectuelle pour salon de l'hôtel de ville, c'est sûr. C'est une question de vie ou de mort. Et ça, c'est un message essentiel, il me semble, qu'on doit faire passer d'abord et avant tout. Hein. Alors, ensuite, sur le capitalisme, alors ça, je me rappelle plus si je le dis ou pas, la citation de Sico Mancholl, donc ce président de la Commission européenne des années 70, qui disait... Pardon. Donc, Sico Mancholl, président de la Commission européenne là, dans les années 70, a dit, pour que l'humanité survive, il faut que le capitalisme meure. Ça, c'était assez net. Et bien sûr, il n'y a pas de décroissance sans disparition du capitalisme. Qu'est-ce que c'est le capitalisme? C'est l'accumulation de capitaux, c'est la création de la société anonyme, la responsabilité limitée, c'est-à-dire que les entrepreneurs peuvent se mettre ensemble et ne perdre que les parts qu'ils ont amenées. Et donc tout est construit à partir de cette accumulation de capital. Donc il est évident que la décroissance n'est pas compatible avec le capitalisme.
Tu peux y aller?
En tout cas...
Oui, question suivante. Question
tu peux y aller? Oui. Bonjour, Geneviève de Crop. Effectivement, chacun sent bien que il y a les limites des stratégies individuelles pour décroître, et puis que le passage au politique, c'est bien là où on bute, là aussi il y a un mur. Alors je voulais vous donner cette information que depuis six mois, un an, nous sommes en train de créer un mouvement politique qui s'appelle Appel pour l'insurrection des consciences, qui s'est fixé effectivement comme orientation de travailler autour de la notion de décroissance soutenable. Alors je ne vous garantis pas que nous avons un programme tout ficelé, que nous savons exactement où nous allons, mais notre projet, c'est justement d'essayer de créer un espace politique, un espace de débat, au moins déjà entre ceux qui ont envie de se coltiner cette question-là, et d'aller un peu au-delà des stratégies individuelles, et puis ensuite de le porter dans l'espace public et dans l'espace politique. Donc, je vous annonce cette naissance-là, et vous aurez, demain, on ne les a pas apportées, mais on a de la documentation qui sera disponible demain en colloque, et on pourra parler avec vous. On est un certain nombre à être dans cette salle.
Il y aura également Pierre Rabhi, qui avait donc été proposé comme candidat.
Voilà, alors ce mouvement s'est créé dans la foulée, dans le sillage de la candidature de Pierre Rabhi aux élections présidentielles.
Est-ce que l'autre micro marche? Est-ce que l'autre micro marche et est-ce que quelqu'un l'a?
Oui. Oui, il marche.
Oui. Bon.
Oui, Nicole Jacquin, la même que ce matin, mais je vais un peu... Nicole Jacquin, ça va?
Ah, éloignez-vous du micro, s'il vous plaît, un petit peu.
Nicole Jacquin.
Éloignez-vous, s'il vous plaît, du micro. Merci.
Nicole Jacquin, la même que ce matin, mais je vais repréciser ce que j'ai dit, parce que là, j'ai eu mal pour ma thermodynamique tout à l'heure, et je crois que les questions qui se posent là viennent de ce qu'on on discute toujours au niveau du partage des ressources, les ressources de la lithosphère. Alors que la décroissance, ça veut tout simplement dire ne plus aller vers, ne plus puiser dans ses ressources. On a eu une démonstration tout à l'heure, moi, qui ne m'a pas du tout convaincue, où on évoque l'énergie solaire sans l'intégrer dans le processus. Donc je répète brièvement ce que j'ai dit ce matin. La Terre, la biosphère, c'est un système thermodynamique fermé, d'accord, mais non isolé, parce qu'il se trouve dans un autre système thermodynamique, qui est le système solaire.
Hervé-René Martin, donc, je voulais dire deux choses. Au niveau du recours aux politiques, je voudrais vous rappeler la GIF, compris les Verts allemands, quand, avant la liste avec Schröder, ils ont proposé l'augmentation de l'essence de 400%. Voilà, ils ont dû vite se retirer et revenir en arrière. C'est-à-dire, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'une démocratie de marché, c'est de l'arbitrage d'intérêts privés qui arbitre. Voilà. Et un politique, aujourd'hui, il ne peut, Benassayag a dit, le pouvoir est le lieu de l'impuissance totale. Voilà. Donc un politique, aujourd'hui, ne peut qu'arbitrer des intérêts privés. Voilà. Moi, je suis bien entendu d'accord avec François de Ravignan, c'est que ce n'est pas du tout une décroissance soutenable, voilà, au sens bucolique du terme. C'est une véritable catastrophe. Est-ce que la question est posée, est-ce que le capitalisme mondial peut s'en remettre? Certainement pas. Une des bases du capitalisme, c'est de l'accumulation de richesses pour créer de nouvelles richesses. Qu'est-ce que c'est la croissance économique? C'est rien d'autre que ça. Voilà. Nous sommes riches parce que nous sommes riches et nous serons encore plus riches parce que nous serons plus riches. Sauf qu'on l'a vu, l'espace se rétrécit. On nous dit qu'on a besoin de deux planètes aujourd'hui. Si on veut vivre sur le mode d'un Américain, on en a besoin de six. En 2050, on aura besoin de 12 et de 30. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 20% de la population mondiale accapare 86% de la consommation privée totale, ce qui veut dire que nous avons un anti sur 5 personnes. Comment on peut être un anti sur 5 personnes? Il faut être né au bon endroit, voilà. Il faut courber les chines et servir le système avec zèle. Voilà. Quand on va passer à une planète pour 12 personnes, ça veut dire qu'on va passer à un anti sur 15. Il faudrait être très violent pour être à un anti sur 15. Donc moi, je crois que, où est-ce qu'on peut agir? À mon avis, il y a deux choses à faire. La première, c'est rien, c'est assez bizarre, mais on est dans une espèce de course vers l'abîme tellement rapide qu'il faut s'arrêter un peu et réfléchir. Voilà. Mais aller dans les paradoxes, je trouve qu'on ne va pas encore assez, justement, on ne va pas encore assez creuser dans les paradoxes. Et deux, je crois que moi, je ne crois qu'à une chose, c'est à l'action individuelle et par petits groupes. C'est-à-dire que comment est-ce que nous, on peut retirer ça quand on pense à l'effet rebond? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une solution, c'est de gagner moins d'argent. Parce que bien sûr que si vous avez un produit qui est plus efficace, qui vous permet d'avoir un autre produit à côté, et même si vous achetez un objet complètement écologique, comme l'a dit François Hilder tout à l'heure, cette personne, qu'est-ce qui vous garantit qu'elle va acheter un objet écologique? Et si vous achetez des services, qu'est-ce qui vous garantit que cette personne à qui vous avez acheté juste un service, notre écologiquement, va acheter un... Voilà, c'est tout.
Bonjour. Donc, moi, je voudrais revenir un petit peu sur les deux questions qui ont débuté un petit peu ce débat. Et sur la dernière intervention, c'est, je pense que par rapport à ce qui s'est dit, on est dans deux optiques. Soit on attend la catastrophe, et là, il n'y aura pas d'autre solution pour les politiques, et ils devront prendre des décisions. Soit on décide de s'organiser sans les politiques, et on propose un système qui marche, et quand on arrivera à la catastrophe, il n'y aura plus que cette solution appliquée. Mais on aura déjà pris de l'avance. Ou on aura en tout cas évité de prendre du retard. Donc je fais une proposition toute simple. C'est pourquoi pas dès aujourd'hui, déjà avec les personnes qui sont présentes dans cette salle, faire un échange de bonnes pratiques et le centraliser pour le diffuser. Parce que le problème de toutes ces informations, de tous ces débats, c'est que ce n'est pas centralisé et ce n'est pas diffusé. C'est très bien de faire un débat comme ça avec 300 personnes qui sont super concernées, mais nous ne sommes que 300 personnes ici. Donc on échange, mais il y a ce qui s'est dit ce matin, il y a un temps de diffusion de l'information qui n'est pas dans le bon sens, qui ne va pas dans le bon sens. Et une autre chose, c'est on a eu déjà, pour confirmer un peu tout ça, il y a déjà eu donc des situations favorables, donc le président de la Commission européenne, c'est ça, qui disait il faut tuer le capitalisme, allons-y dans la décroissance. Mais même à cette époque, on ne l'a pas fait. Même quand les politiques, à ce niveau-là, le disaient. Donc je pense que c'est essentiel de commencer à agir collectivement au-delà de la prise de conscience individuelle. La prise de conscience individuelle a un effet levier sur la masse, mais la masse ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas une solution collective. C'est tout.
Oui, je crois que ce qui vient d'être dit, c'est important. On est quand même dans un système démocratique. Et la démocratie nécessite un débat. C'est bien qu'il y ait ce débat ici, mais c'est important, chacun ici, soit dans un groupe ou une association, de le porter aussi à l'intérieur des syndicats et des partis politiques. Parce que rien n'est dit qu'actuellement, vous soyez en mesure de le faire et de croire de le faire uniquement à partir d'un noyau ici, même si on entend les mêmes paroles et on les partage, rien n'est dit que nous soyons en capacité de faire ce projet. Ce serait un tort de croire que ce projet puisse s'inscrire au niveau d'un petit groupe sans le porter au niveau global. On avait dit tout à l'heure, tous ces thèmes-là sont discutés à l'intérieur des syndicats, à l'intérieur des partis, mais d'une autre façon, peut-être. Mais c'est important de porter le débat d'une façon plus rigoureuse et de le faire partager. Il y a des attentes à l'intérieur des partis, à l'intérieur des syndicats. Il ne faut pas croire qu'à l'intérieur, que ce soit du PS, du PSC et autres partis, que les militants soient satisfaits de ce que disent leurs dirigeants. C'est évident. S'il y a une crise même à l'intérieur de ces partis, mais il ne faut pas croire qu'on va créer un parti nouveau qui va porter à nous seuls ce discours que nous faisons là. Et c'est très dangereux de croire que notre action individuelle soit suffisante. Mais en même temps, collective à l'intérieur de ce groupe-là n'est pas suffisante non plus. Merci.
Bonjour, Philippe, producteur de chèvres en Savoie. Je voudrais intervenir sur ce qu'a dit le monsieur et puis cet autre monsieur en citant un proverbe d'Amérique latine qui dit que beaucoup de petites choses faites par beaucoup de petites personnes dans beaucoup de petits endroits du monde font les grandes choses. Voilà.
Bonjour, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Rhône-Alpes sans nucléaire. Je voudrais simplement dire qu'il y a eu à l'automne 2002 un sondage commandé par Le Monde qui a montré que 62% de la population était prête à se passer du nucléaire. Alors qu'en fait, parmi nos élus, on peut dire qu'il y a à peu près 90% qui sont pro-nucléaire. Donc, nous pensons à Rhône-Alpes sans nucléaire que nos élus ne nous représentent pas. Et c'est pour cela que nous sommes vigilants et nous voulons nous montrer citoyens en agissant peut-être contre l'opinion de nos élus, en allant les voir, mais en ne leur faisant pas confiance. Je pense qu'un colloque comme aujourd'hui est peut-être représentatif de ce qu'une certaine partie de la population pense. En tous les cas, il est important d'être vigilant par rapport au système politique. Il est évident que nous ne pouvons pas nous passer du système politique dans une démocratie, mais il est devenu évident que la population doit être vigilante à émettre son opinion au sein des partis politiques, évidemment, mais pas seulement.
Pascal Gauthier, Emmanuel. Donc, ce que je voudrais... Vous m'entendez, là ?
Oui.
Ça marche ? Donc, je pense qu'il n'est pas question de transformer le monde. La question cruciale, c'est de se transformer soi-même. Et je pense que c'est là les vraies questions, et elles se reportent sur nous-mêmes. À chacun de trouver les solutions dans son existence. La vie de chacun est plus ou moins longue. On a des enfants, on a aussi moyen d'agir sur leur éducation, sur ce qu'ils vont pouvoir faire plus tard. Donc moi je suis là aussi pour vous témoigner de ce que je vis actuellement. Donc je vis pratiquement vers la décroissance, puisque je m'apprête à quitter quelque chose et je ne sais pas ce que je vais trouver. Pour avoir fait des choix principaux, j'ai deux grands-enfants. Pour revenir à des choses de base qui ont été dites tout à l'heure au niveau de la naissance. Donc je voudrais dire que les fondations de l'existence sont cruciales, au-delà de la politique. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question comment on a des enfants aujourd'hui, comment on les accueille, comment on les élève. Et là je pose la question, est-ce qu'on est encore en démocratie à ce stade ?
Juste pour répondre au monsieur tout à l'heure qui a posé une question sur quelle efficacité en fait de la décroissance. Un exemple, au printemps dernier, il y a eu un mouvement social important sur des questions essentielles et qui concernent également la décroissance durable. Qu'est-ce qu'on fait de l'éducation? Sans parler des retraites, mais l'éducation. Pendant près de 3-4 mois, disons, 2 mois et demi, des gens sont descendus de la rue. Donc on fait grève. Se sont parlé, se sont rencontrés, donc ne sont plus allés consommer dans les bistrots ou faire du shopping. Pendant ce temps-là, ils ont réinventé aussi une modalité de rencontre, de relation, savoir se parler, s'écouter, même si parfois c'était assez tendu. Résultat, on a enregistré 1,5 en moins de la consommation pendant ce mois et demi. Article de Libération, nous avons été traités, je dis nous avons parce que je suis enseignant et que j'y participais, de salopards par notre ministre des PME. Donc ça veut dire que quelque part, quand on consomme moins, ça s'enregistre. Et c'est clair, c'est évident. C'est sûrement pas la solution, mais dès qu'on diminue, dès qu'on limite notre consommation, quelle qu'elle soit, ça s'enregistre dans un certain nombre de chiffres dont les économistes sont férus. Voilà, donc ça peut être aussi une des formes de réponse à la question qui avait été posée.